Bonjour Farley, tu es la toute première ce matin avec ta maman à vous connecter, donc bienvenue. Je vois qu'il y a cinq personnes, mais je vois juste le nom de Farley qui s'est connecté, donc ça se pourrait que je n'ai pas le nom de tous ceux qui se branchent ce matin. Je vais juste essayer peut-être de repartir ça ici. Commence pour voir. Je ne vois pas plus de gens. Donc c'est ok, non. En fait, je vois même parler qui se connecte deux fois. Alors vous, les sept personnes qui êtes connectées, faites un petit coucou et je pourrai vous saluer. Bonjour à Jean-Gilbert et à Ozani. Voilà un deuxième nom qui apparaît. Bonjour à mon père et à ma mère. Bonjour Diane. Ah, Daphné est connectée. Bonjour à Daphné. C'est elle que vous avez vu la, dont vous avez vu la main tout à l'heure amener un napkin et une cuillère. J'ai encore la tisane qui est en train de chauffer là ce matin. Bizarrement, la nénette n'est pas venue chercher sa collation, c'est bizarre. Elle doit être perturbée du fait que madame est à la maison aujourd'hui. Bonjour Sylvie. Bon début de semaine à vous aussi. On est lundi, deux rendez-vous aujourd'hui. Rendez-vous donc ce matin, bien entendu, avec notre bénédiction matinale dans quelques instants. Mais de surcroît à cela, il y a aussi la rencontre ce soir avec le pasteur André, le cours biblique sur le livre des Actes. Alors, on vous invite à être là. Comme d'habitude, ça va être à 19h, heure de Montréal. Elle a quelques jours de congé. Je parle de Daphné, bien entendu, là. Elle a quelques jours de congé. Bonjour Guy. Dieu te bénisse. Je t'appelle tout à l'heure, Guy. J'ai reçu ton message. Je te lâche un petit coup de fil tout à l'heure. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Rebonjour à Sampa Wende, si elle est connectée. Présentation du petit Mathéo, du grand petit Mathéo. Dis-moi, un beau petit bonhomme. Et on est très content pour Daniel et puis pour Catherine, le papa et la maman. Merci beaucoup, Farley. Merci beaucoup, Marie-Andrée. Ah, là, je viens de voir que Sampa Wendy est connectée. Dieu te bénisse, ma chère. Alors, ce matin, on va débuter. En fait, on reprend l'enseignement d'hier, comme on a fait à travers toutes les dernières semaines depuis qu'on étudie la question du jubilé. Donc, on prend l'enseignement du dimanche et de façon quotidienne tout au long de la semaine, on essaie d'approfondir un peu, d'illustrer peut-être les choses un peu différemment. Et assurément, Dieu aura de bonnes choses et de belles choses à nous dire cette semaine. Donc, pour ceux qui veulent déjà ouvrir leur Bible, ça va être bien entendu dans Lévitique au chapitre 25, et ça va être du verset 13 au verset 18 cette semaine. Bonjour Denise, que Dieu vous bénisse. Bonjour Nicole. Nicole, êtes-vous en zone orange ou en zone rouge encore au niveau de la Mauricie? Si vous êtes en zone orange, ça veut dire que les cultes à l'église ont certainement recommencé. Je crois qu'en zone orange, on permet d'avoir 100 personnes. J'espère que tu as pu en profiter. Si c'est le cas, du moins, j'espère que tu as pu en profiter. Il paraîtrait que dans les zones rouges, on s'apprêterait à passer à 25. Ce qui est déjà une petite consolation. Gracias, hermana Flori. Que Dios la bendiga ricamente. Bonjour Jocelyne. Bonjour Jacques. Soyez bénis. Je suis convaincu, Nicole, que dimanche prochain, tu vas te réjouir. Nous, les 10 personnes simplement qu'on peut accueillir à chaque fois qu'elles viennent et nous disent combien ça fait du bien de voir les gens de l'Église. Donc, je suppose qu'il en sera de même pour vous à Shawi. Tu veux pas dire bonjour à la caméra, toi, aujourd'hui? Habituellement, tu viens pointer ton museau. Oui? Non, un peu. Tu as montré tes yeux, simplement. D'accord. Encore 2 ou 3 minutes. Bonjour, Didier. Sois béni. Bon début de semaine. Dios la bendiga, hermana Susana. Que Dios sea con vosotros. C'est vrai que nous, Nicole, à l'église à Montréal, quand on avait le droit d'avoir plus de personnes, on s'est limité malgré tout à 100 personnes pour la question du respect de la distanciation. Donc, on calculait 1,50 m, 2 m, je crois, entre chaque siège. Puis ça faisait en sorte que ça réduit pas mal la capacité d'accueil. Mais 100 personnes aujourd'hui, c'est une foule. 50 personnes, c'est aussi une foule actuellement. Donc, j'espère que tu auras du plaisir à l'église ce dimanche. Encore un petit instant et on va commencer. Et en passant, merci pour tous ceux qui ont prié concernant l'inondation des derniers jours. Elle semble être sous contrôle actuellement. Il faut dire que la fonte des neiges s'est interrompue durant la soirée. Mais je suis quand même en train de pomper un peu d'eau malgré tout dans le puisard pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Et malgré les moins 16, moins 17 à l'extérieur, ça continue à s'écouler à l'extérieur, donc c'est bon. Et bizarrement, je ne vois aucun des valeureux qui se réjouissait la semaine dernière avec l'arrivée du printemps et des 14 ou 15 degrés qu'il faisait à l'extérieur, où on me taquinait. Aujourd'hui, qu'il fait moins 15, moins 17, je ne les vois pas aussi bavards. Mais croyez-moi que lorsque je vais voir Alex se brancher, ou lorsque je vais voir Jimmy se brancher, je vais m'assurer de leur souhaiter une très joyeuse journée. Bonjour Babette. Bonjour Andreas. Alors, on va prier, puis on va débuter notre enseignement d'aujourd'hui. Bonjour, Suze. Contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour cet instant. Merci, Seigneur, d'être avec nous, d'avoir ouvert nos yeux ce matin, de nous avoir encore accordé le souffle de vie pour nous donner l'occasion de plonger ses regards dans ta parole afin d'être nourri, d'être enseigné, d'être transformé par elle. Nous te présentons toute cette semaine avec tout ce que nous allons partager, tout ce que nous allons lire, tout ce que nous allons étudier. Nous te demandons, Seigneur, de prendre contrôle de chacun des mots qui sera prononcé et de faire en sorte, Seigneur, que ceci trouve en chacun de nous une terre qui a été bien préparée et dans laquelle elle peut non seulement s'implanter, mais aussi croître et porter un fruit qui t'est agréable jusque dans l'éternité. Alors j'appelle ta bénédiction sur ma sœur, sur mon frère ce matin. Qu'en toute chose, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors encore une fois, bien le bonjour à tous. Et comme j'avais dit que j'allais le faire, je viens de voir Jimmy qui vient de se brancher. Je te souhaite une très, très, très belle et glaciale journée, Jimmy. Cette fois-ci, c'est moi qui me réjouis. Donc, voilà, c'était le petit aparté de ce matin. Donc, cette semaine, on étudie la même thématique qu'on a partagée hier. On est rentré dans le domaine du jubilé et de la restauration du territoire. Et on va baser notre étude sur, toujours dans le livre de Lévitique au chapitre 25, c'est le texte principal concernant le jubilé. Et on va voir donc du verset 13 au verset 18. Ce sont essentiellement les points qu'on a mentionnés, qu'on a partagés hier. Mais comme on va l'étendre sur 4 ou 5 jours, ça va bien entendu nous donner l'occasion d'approfondir, peut-être d'illustrer différemment. Et parfois aussi simplement de répéter les données partagées hier, mais à l'occasion, la répétition est une très bonne chose, notamment lorsque ça a trait aux vérités concernant la parole de Dieu. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Lévitique au chapitre 25, et je vais lire pour vous du verset 13 au verset 18. Donc, Lévitique 25, 13 à 18. Dans cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix. Et moins s'il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre de récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique, vous habiterez en sécurité dans le pays. Et je relis donc le verset 13 et 14 qui sont à la base de notre réflexion ce matin. Dans cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Alors, comme on l'a vu hier, je crois que le jubilé, oui, c'est l'occasion de la restauration des biens. Et on se rappelle tout simplement d'un point de vue historique. Le jubilé était une année particulière dans un cycle de 50 ans. En fait, c'était 7 groupes de 7 années qui étaient conclus, certains pensent, moi je dirais plutôt, qui étaient débutés par une année spécifique qu'on appelait le jubilé. Pourquoi je dis que c'est plutôt le début? Parce que oui, on nous parle d'une transition entre deux époques. Donc, on nous dit, voici comment terminent ces 7 blocs de cette année que vous avez eu à vivre. Et dans cette nouvelle année, la 50e année, voici comment vous opérez. Et cette année a une incidence sur les années qui viennent. En fait, on restaurait à la personne qui avait vendu son champ, sa propriété, parce qu'elle était en besoin, qu'elle ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Donc, elle vendait sa propriété et la personne qui l'achetait devait, lorsqu'on arrivait à l'année du jubilé, rétrocéder, redonner cette propriété à son propriétaire initial. Donc, en Israël, même si on avait eu un moment, on va dire, de difficulté financière, il était établi que lorsque le jubilé arrivait, donc tu pouvais retourner à ce qui t'appartenait auparavant. Et c'est vrai qu'on pourrait lire ce texte comme on l'a fait ce matin et y voir comment on doit se comporter lors d'une transaction commerciale. Mais je pense que ça va plus loin. Dieu se servait effectivement de cette rétrocession des biens, de cette rétrocession des propriétés. Je pense tout simplement pour établir comment les relations interpersonnelles devaient fonctionner. Voilà pourquoi dans le titre que j'ai mis aujourd'hui, dans le petit message que j'ai mis aujourd'hui, j'expliquais que ça va au-delà d'une question de restauration du territoire. Ça va surtout dans une question d'assainir, disposer des relations qui doivent être établies entre les frères, entre chacun d'entre nous et notre prochain. Alors, dans ce verset 13 et 14, voici quelques points que j'aimerais faire sortir. Le verset 13, et je le relis pour vous, « Dans cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. » On se rappelle comment cette année débutait avec le son de trompette qui était utilisé strictement à l'occasion du jubilé. Donc, c'est des trompettes qu'on appelle le chauffard, qui était fait à base d'une corne de bélier. Et cette trompette n'était sonnée que durant cette année du jubilé. C'était la même trompette qu'on pouvait utiliser dans n'importe quelle autre fête ou festival ou festivité juive. Mais de façon particulière, on les rangeait pendant 50 ans, ces trompettes particulières qu'on soufflait à l'époque du jubilé. Et quand elles sonnaient, tout le monde savait ce que ça voulait dire. Tout le monde savait qu'à partir de ce moment-là, la société allait changer, le statut des uns et des autres allait changer. Parce que pendant un certain temps, maximum 49 ans, il y avait une relation entre un patron et un serviteur, entre un maître et un esclave, entre un acheteur, nouveau propriétaire d'un terrain, d'un lopin de terre, et puis quelqu'un qui a été déraciné de chez lui. Mais lorsque le jubilé arrivait, tout le monde savait que l'ensemble de la population revenait à un point d'égalité. Donc, c'était un changement de vie et un changement de mode de vie. Dans le sens où si j'avais été esclave pendant 48 ans, 45 ans, 30 ans, 20 ans, le temps qui avait été donné pour me rendre au service de quelqu'un qui était plus nanti, lorsque j'arrivais à l'année du jubilé, ben je passais du statut d'esclave, du statut de serviteur, à statut de personne affranchie, voire même si j'avais été dépossédé de mon lopin de terre, je passais donc du statut d'esclave à statut de propriétaire terrien. Ça veut dire un gros changement dans la vie des uns et des autres. Et je pense que notre arrivée à Christ, puisque le jubilé représente un peu cette nouvelle naissance que nous obtenons avec le Seigneur, elle se doit d'apporter dans la vie des uns et des autres un changement. Tu ne peux pas venir à Jésus, tu ne peux pas t'approcher de Dieu et rester le même. Tu ne peux pas avoir vécu pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans en ignorant Dieu, en ne vouant pas ta vie à Christ, puis lorsque tu le rencontres, recevoir le salut, qui réjouit assurément tout le monde, mais rester dans tes pratiques d'antan, rester dans ta façon d'être d'antan, rester dans le mode de vie qui était tien auparavant. Lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu le rencontres, lorsque tu passes par cette question de salut, par cette question de rachat, de rédemption, il doit assurément s'opérer un changement. Il doit être compris par toi et par moi qu'en venant en Jésus, je change. tu ne peux pas rester la même personne. Donc, dans ce verset 13 qu'on vient de relire, le premier point que je vous dirais, c'est que ce jubilé est un moment de changement de statut. Donc, j'étais esclave, je deviens propriétaire terrien. J'étais esclave, je deviens maintenant citoyen à part entière. J'étais esclave, je deviens maintenant un affranchi, un homme libre. Donc, changement de statut. Et de surcroît à cela, changement de mode de vie. On s'entend que l'esclave a un mode de vie que le propriétaire terrien n'a pas. C'est deux mondes différents. Mais lorsque le jubilé arrivait, tout le monde était ramené à un point d'égalité et à un nouveau mode de vie. Le propriétaire terrien pouvait se ramasser du jour au lendemain sans plus de serviteurs. Ça veut dire que maintenant, il devait partir à la recherche de serviteurs. Ce qui était bien, c'est que l'année du jubilé était aussi une année de jachère. Donc, c'était une année où on ne cultivait pas les champs. On aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de notre étude dans quelques semaines. Mais ça a un sens particulier. Ça veut dire que pendant un certain temps, j'avais pas besoin de serviteurs. Je devais tout simplement laisser la nature faire son travail et je me nourrissais de ce qu'elle produisait tout naturellement. Mais ce faisant, celui qui n'avait pas de propriété avait ce temps pour se préparer d'une année et celui qui avait une propriété mais qui avait perdu ses serviteurs avait le temps de rechercher des ouvriers pour le travail qui allait débuter dans un an. Et ce faisant, tout le monde était ramené à un point d'égalité. Donc, premier point, un moment de changement de statut et un moment de mode de vie qui change lorsqu'on vient à Christ. Deuxième point, ce moment était dicté par Dieu. Ça veut dire que Dieu avait établi que dans le calendrier juif, on allait compter 7 blocs de 7 années. Et la 50e année marquait un point initial pour une nouvelle saison, marquait un point de transition important. Et Dieu décrète aussi des changements. Le fait que Dieu décrète le salut dans ta vie et dans ma vie, c'est aussi parce qu'il décrète pour toi et pour moi que nous quittons notre vie ancienne pour entrer dans une nouvelle vie. Un peu l'exemple que je donnais hier lorsqu'on parlait de Nicodème, à qui Jésus va dire « il faut que tu naisses de nouveau ». C'est pas une question que tu vas juste changer un peu, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Et cette nouvelle vie a été dictée, a été décrétée, a été offerte par Dieu. Dieu n'a pas envie que tu continues à mener ta même vie que tu menais jusqu'à présent. Dieu a envie d'un nouveau départ, un nouveau départ qui est exempt de la condamnation du péché qui était sur tes épaules à cause de ta nature pécheresse et à cause du péché initial d'Adam et Ève qui s'est propagé génération après génération. Donc, c'était vraiment un nouveau, total, véridique départ frais. C'est pas une continuation avec quelques petits changements, c'est un nouveau départ que Dieu a décrété, que Dieu établissait à l'époque du jubilé pour la population juive, mais pour nous en tant que chrétiens, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, c'était effectivement, et je prends une petite gorgée, donc avec la nouvelle naissance, c'est effectivement l'opportunité d'un changement qui nous est offert, qui est décrété, qui est établi par Dieu. Troisième point, le nouveau changement est offert par Dieu. C'est une chose. Mais encore faut-il embrasser ce nouveau changement. Le propriétaire qui avait un terrain aurait pu être réfractaire à rendre le terrain à son ancien propriétaire. L'esclave aurait pu être réfractaire, peut-être en se disant, voici, j'ai un bon maître, j'ai une vie qui m'est relativement bien. Partir maintenant, développer quelque chose pour moi-même. Peut-être que je suis rendu trop vieux, peut-être que j'ai pas la force pour faire ainsi, alors je préfère rester au service. Mais il y avait un changement qui était embrassé par chacun des individus. Même le serviteur qui restait au service de son maître. Et on en a parlé, l'esclave qui disait, moi je ne veux pas quitter mon maître, j'ai un bon maître, les conditions de vie me sont agréables auprès de ce maître, le statut de cette personne changeait malgré tout. On vous rappelle qu'on lui perçait l'oreille, on mettait un anneau à son oreille, et ça voulait dire « j'ai eu l'occasion de me libérer, j'ai eu l'occasion de quitter, j'ai eu l'occasion de ne plus être esclave, mais j'ai décidé parce que mon maître est bon, parce que j'aimais ma vie auprès de mon maître, parce que j'aimais servir mon maître, j'ai décidé de rester avec lui. » Et ce rester avec lui, c'était pas pour 50 ans, c'était pas pour un autre cycle de jubilé, mais c'était pour le restant de sa vie. Alors, s'il lui restait encore 75 ans à vivre, ça voulait dire qu'il allait passer devant une autre opportunité de jubilé, mais que cette fois-ci, il disait, je n'ai même pas à attendre 50 ans supplémentaire, je sais déjà que le restant de ma vie, je veux la vivre, ou je veux le vivre le restant, je veux le vivre auprès de mon maître. Alors pour lui, c'était aussi un changement de statut que les gens remarquaient à cette boucle d'oreille. Il allait au marché et les gens voyaient la boucle d'oreille et savaient très bien, ce gars-là a eu l'occasion d'être libre, mais il a décidé de rester au service de son maître. Donc non seulement ça honorait le maître en se disant « waouh, ce maître-là doit être bon », mais ça honorait aussi ce serviteur qui disait « moi, je veux rester auprès de ce maître, je veux le servir ». Donc, le statut de cette personne changeait. Donc, il y a un embrassement, une embrassade plutôt, de ce changement de statut. Tu ne subis pas la volonté de Dieu ou tu ne devrais pas subir la volonté de Dieu, tu devrais l'embrasser. Et les changements que Dieu veut opérer dans ta vie, il est vrai que c'est un changement de nature, c'est un changement de pratique. Ça veut dire qu'il y a des choses qui viennent nous bousculer. Il y a des pratiques qu'on pouvait avoir hier qui nous étaient plus ou moins normales parce qu'on les faisait depuis si longtemps. Mais Dieu va venir te voir en te disant « je ne veux plus que tu fasses cela, je ne veux pas que tu fasses cela maintenant que tu es à mon service. Voici comment je veux que tu vives ta vie et quelle est l'attitude, quel est le caractère, quelles sont les réactions que je veux voir se développer en toi. » Donc, tu peux subir la volonté de Dieu, tu peux vivre la volonté de Dieu comme si tu mangeais un citron à tous les matins et qu'on te tordait le bras et on te tirait l'oreille, ou tu peux simplement capituler devant le Seigneur en disant « Seigneur, j'ai compris qu'il n'y a pas de meilleur maître que toi. J'ai compris qu'il n'y a pas de meilleur endroit que d'être dans ta maison et je veux rester là. » Un peu comme le fils prodigue qui va dire jusqu'à un certain point qu'il a été tellement bête de quitter la maison de son père parce que dans la condition où il était rendu loin de la maison de son père, il était dans une condition pire que le moindre des serviteurs de son père. Et sa condition était pire que le plus petit des esclaves de son père. Il disait « si je peux simplement aller jusqu'à la maison de mon père, je lui dirai « j'ai péché contre toi ». Permets-moi d'être ton serviteur. » Il disait, je ne veux même pas être son fils, je veux simplement être son serviteur parce que la condition de serviteur auprès de mon maître est déjà nettement meilleure que celle qui est la mienne aujourd'hui. Donc, embrasser le changement, embrasser ce changement qui est désiré par Dieu. Quatrième point dans ce verset 13, on se rend compte que ce retour à la possession, ce retour à la propriété, se passe lorsque les trompettes sonnent. C'est pas le jour d'avant, c'est pas l'année d'avant, c'est pas 10 ans avant. C'est cette année du jubilé, ce 50e anniversaire qui marque avec le souffle dans les trompettes, avec le son des trompettes, qui marque le début de cette nouvelle période. Il faut qu'il y ait un moment marquant dans ton existence. Il faut qu'il y ait un point de non-retour qu'on appellerait dans ton existence. Dire, voici jusqu'à quel moment j'ai vécu pour moi-même et voici à quel moment j'ai embrassé la volonté de Dieu. Il doit y avoir ce moment précis où c'est pas genre, ah, j'ai grandi dans l'église, fait que j'ai toujours été plus ou moins dans ça. Même si tu es né dans un foyer chrétien, même si tu as grandi auprès de parents chrétiens, même si tes parents étaient serviteurs de Dieu et que tu as grandi dans une atmosphère d'église, dans une atmosphère de communauté chrétienne, de fraternité chrétienne, il se doit d'y avoir ce moment tout particulier où en tant qu'individu, bien pensant, tu fais tu prends cette décision réfléchie et délibérée. Voici, à partir de ce jour, je décide d'appartenir à Christ. Je décide de donner mon existence à Christ. Il doit y avoir ce moment particulier. Et je dirais même que ce moment particulier peut aussi se reproduire. Il y a des étapes clés, il y a des moments charnières dans notre existence où le Seigneur change notre façon d'être. Oui, j'ai accepté le Seigneur alors que j'étais tout jeune, j'avais 7 ou 8 ans. Par la suite, je suis parti loin du Seigneur. Je suis revenu à Dieu à un moment où j'avais environ 16 ans. Mais ces deux étapes-là étaient effectivement des retours à Christ. Mais il y a aussi eu d'autres étapes subséquentes dans lesquelles je sais qu'il y a un moment marquant qui s'est passé. Il y en a un et on en parlait encore hier avec mon épouse, un moment particulier, le lendemain du diagnostic de cancer, où j'ai fait cette prière toute simple et je savais les mots que j'allais prononcer. On a pris juste la nuit où on était troublé par l'annonce du cancer qui avait été faite et on a attendu le lendemain matin pour prier officiellement et j'attendais ce moment-là parce que je voulais être sûr des paroles que j'allais prononcer. Et je voulais être sûr de ne pas arriver 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, un mois plus tard, 6 ans plus tard, comme aujourd'hui, puis dire je change ma façon de voir, je révoque ma décision. Et ma prière était toute simple, c'était Seigneur, c'est correct. Quoi que tu fasses, Seigneur, c'est correct. Et une fois que tu fais réellement et sincèrement cette décision où tu capitules devant Dieu, délibérément et avec joie, tu capitules devant Dieu en disant Seigneur, ta volonté est parfaite, je sais que tu es bon. Fais ce qu'il te semble parfait. Lorsque tu arrives à cette décision, et là je parle vraiment d'une décision viscérale, au plus profond de ton cœur, tu ne peux pas par la suite aller voir Dieu après 3 semaines de chimiothérapie, après une opération envahissante, après des journées où les forces ne sont plus là. Tu ne peux pas retourner à Dieu puis dire, regarde Seigneur, j'ai changé d'idée, je reprends le contrôle de ma vie. Il y a ce genre de moments clés, de moments charnières dans lesquels tu dois passer. Et je prie effectivement que tu puisses arriver dans ces moments-là. C'est vrai que dans mon cas, il y a eu une question de cancer. C'est vrai que dans mon cas, il y a eu une question de maladie. Dans mon cas, il y a eu une question d'être confronté avec la fragilité de la vie, avec la possibilité d'une mort plus rapide, plus précoce que je ne l'avais imaginé. Donc oui, ça a été entouré d'un moment qui pouvait être à la fois troublant, mais en même temps, ce moment où tu te sais dans la présence de Dieu, où tu te sais intime avec Dieu, et tu sais que ta vie ne sera plus jamais la même. Un peu ce qu'on a dit concernant la pandémie. Lorsque la pandémie a commencé, j'ai été un des premiers à vous dire, regardez, la société ne sera plus la même. Il y aura avant et il y aura après. Et je prie qu'il y ait ces moments charnières pour toi avec ton Seigneur, qui te permet effectivement dans ce moment qui a été édicté, qui a été prévu, qui a été planifié, qui a été placé de toute éternité par Dieu pour que tu prennes une décision et que ce soit une décision de changement profond, radical et irréversible dans ta vie. J'ai pu expérimenter la présence de Dieu comme jamais auparavant lorsque j'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est correct. Je n'ai jamais senti la présence de Dieu aussi palpable, aussi tangible de ma vie que dans les semaines et les mois qui ont suivi cette décision où je disais, Seigneur, c'est correct. Alors juste pour ça, je prie pour que vous passiez par une telle expérience, ce moment charnière, ce moment de point de non-retour dans votre relation avec Dieu. Maintenant, 2 points concernant le verset 14. Et je relis pour vous le verset 14. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Alors, si vous vendez ou si vous achetez, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Le moment du jubilé, c'était aussi un moment où on décidait de prôner l'honnêteté et non plus la manipulation. Et l'honnêteté et manipulation peuvent être 2 termes qui sont forts, mais je m'exprime, ou je m'explique plutôt. Lorsqu'on va parler de l'honnêteté, on va parler d'être sincère et d'être non plus dans cette attitude de manipulation qui pouvait être nôtre avant. Très souvent, on vit notre vie avec cette pensée, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? On prend une décision, on parlait d'une certaine génération avec mon épouse hier, on disait, mais c'est une génération qui est très poussée vers autrui, vers les bonnes actions, vers l'implication sociale, vers les grandes causes, mais en même temps, c'est une question de valorisation pour soi-même. Il faut que je me sente bien dans tout ça. Lorsqu'on parle ici de ne plus tromper son voisin, c'est que le Seigneur nous invite à penser à notre voisin, un peu comme Christ qui va laisser de côté sa gloire pour venir prendre soin de nous. Un peu comme le Seigneur qui va laisser de côté sa propre sécurité, sa propre vie, l'intégrité de son corps même pour venir mourir à la croix pour toi et pour moi. Il est l'exemple ultime, l'exemple suprême, l'exemple parfait de ce vers quoi on devrait tendre. Alors, dans nos relations avec les autres, ce n'est plus ma personne qui devrait compter, mais c'est la personne en face de moi. Et je sais que là, déjà, il y a des gens qui vont nous dire « Ouais, mais les gens vont abuser de moi. » Et la problématique, c'est que, effectivement, les gens n'appliquent pas la parole de Dieu. Mais si dans la communauté chrétienne que nous représentons, et si dans la société en général, on avait vécu comme la Bible nous enseigne à vivre et comme Dieu prônait la vie et les relations interpersonnelles, à chaque fois que moi je veille sur quelqu'un, j'aurais été assuré que quelqu'un aussi veillait sur moi. Aimez-vous les uns les autres qu'on a partagé hier, faisait en sorte que, alors que moi j'aime pleinement les autres et que je m'oublie pour mettre de l'avant les autres, c'est la même tâche que celui en face de moi a à faire. Ça veut donc dire que lui aussi s'oublie pour penser à son prochain, qui est ma petite personne qui est devant lui. Donc, le moment où on décide de prôner l'honnêteté, la sincérité, au détriment de la manipulation, on ne cherche plus notre propre confort, on ne cherche plus notre propre désir. J'échangeais aussi avec un pasteur hier qui disait, en voyant des serviteurs de Dieu qui passent dans l'au-delà, depuis un certain nombre d'années au Burkina Faso, puisqu'il a été missionnaire là-bas, il me disait, je me retrouve un peu dans cet état où Paul disait, pour moi c'est un avantage de partir, mais à cause du ministère et à cause de l'Église, il est donc préférable que je reste. Paul va dire, moi je préférerais partir parce que je sais que je me retrouve dans la présence de Dieu, mais à cause de vous, il est préférable d'attendre pour l'instant. Alors, Paul sacrifiait un bonheur qu'il aurait eu à voir son Seigneur pour l'éternité au profit de l'Église, au profit du peuple de Dieu, au profit de l'avancement du royaume de Dieu. Alors, quelles sont les priorités dans ta vie? Est-ce vraiment l'avancement du royaume de Dieu ou est-ce ton confort personnel? Est-ce l'avancement du royaume de Dieu ou ton avancement personnel? Paul va parler de certaines personnes qui pratiquent le ministère, mais ce faisant, la seule chose qu'ils cherchent, c'est à engraisser leur ventre. Ils cherchent le profit pour leur propre personne. Ils prêchent l'évangile comme une occasion de gain. Et Paul va dire, alors il n'y a aucune récompense à attendre pour eux dans l'au-delà, parce que les récompenses, ils les ont déjà eues ici-bas sur terre. Quel est l'objectif que tu cherches? Est-ce vraiment, vraiment que Dieu soit mis sur l'avant-scène, que le plan de Dieu, que le projet de Dieu, que l'œuvre de Dieu avance, ou est-ce que c'est la renommée que tu cherches, la reconnaissance publique que tu cherches, l'approbation de tes pairs que tu cherches? Si c'est ça que tu cherches, tu n'es pas en train de mettre l'œuvre de Dieu de l'avant. Mettre de l'œuvre de Dieu de l'avant, ça veut dire à l'occasion, et même très souvent, de laisser ta propre personne de côté, pour que l'œuvre de Dieu avance. Dernier point, il va dire, et c'est une phrase que je trouve intéressante, au verset 14, « Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, et il continue, qu'aucun de vous ne trompe son frère. » Il dit « Vendre à son prochain, acheter de son prochain, puis qu'aucun de vous ne trompe son frère. » C'est deux mots différents, le prochain et le frère. Mais on dirait que là, le Seigneur veut faire comprendre, regardez, la personne avec qui vous faites une transaction, la personne avec qui vous collaborez, la personne avec qui vous échangez, c'est votre frère. Et vous pourriez dire, effectivement, et entre frères, on se chicane souvent. Mais vous pourriez aussi dire, c'est mon frère, ça veut donc dire que c'est le fils de quelqu'un. Et le fils de ce quelqu'un, c'est le fils de votre père. C'est le fils du Seigneur. Quand vous frayez avec quelqu'un, lorsque vous échangez avec quelqu'un, lorsque vous communiquez avec quelqu'un, rappelez-vous, c'est un frère, c'est un fils de Dieu. Voilà pourquoi régulièrement je dis aux jeunes gens dans l'église, aux jeunes hommes dans l'église, attention, les jeunes filles dans l'église, ce sont aussi vos sœurs spirituelles, ce sont aussi les filles du roi, et le roi fait attention à ses enfants, il fait attention à ses filles, et la chose pourrait être réciproque pour les jeunes dames aussi, faites attention, on ne joue pas avec un fils du roi. Donc lorsque on va échanger, lorsqu'on va vivre en communauté chrétienne, lorsqu'on va vivre et échanger dans la société, n'oubliez pas, la personne avec qui vous allez parler, la personne avec qui vous allez échanger, est un enfant du roi ou un potentiel enfant du roi. Rappelez-vous, toutes les brebis ne sont pas encore dans la bergerie, mais ce sont toutes des brebis malgré tout. Il y a des brebis qu'il faut encore aller chercher et amener dans la brebis, et un jour elles feront partie du même troupeau que vous, mais elles sont malgré tout des brebis. Alors lorsque nous échangeons avec les gens autour de nous, rappelons-nous que le Seigneur, notre Père, les a aimés aussi. Et notre Père a donné son Fils unique, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, pour qu'il meure tant pour nous qui avons reçu ce présent, reçu ce gage d'amour, que pour ceux qui ne l'ont pas encore connu, et pour ceux qui l'ont jusqu'à présent rejeté. Alors rappelons-nous, quand nous échangeons avec quelqu'un, c'est quand même des gens pour qui Jésus est décédé. Parfois, on se frustre avec les gens qui nous entourent. Je vois bien des paroles qui se promènent, et j'ai assurément été parmi le lot des pourfendeurs au cours des années, sur certains politiciens, sur certaines personnalités publiques, sur certaines personnes même avec qui je peux avoir eu des tensions et tout ça. On doit faire attention en sachant que Jésus est quand même mort pour eux. Donc, elle comptait assez pour que Jésus meure pour eux. Alors, pour elle plutôt. Alors, pensons tous à cela lorsque nous échangeons, lorsque nous parlons, lorsque nous agissons envers notre prochain. Rappelons-nous, ce prochain-là, c'est peut-être un enfant de Dieu ou un enfant de Dieu en devenir. Et c'est assurément quelqu'un qui est appelé à devenir par le Seigneur un enfant de Dieu. Alors, faisons attention à nos relations. Cette semaine, c'est ça que nous étudions. Cette semaine, c'est ce sur quoi nous allons travailler au-delà d'une transaction commerciale entre deux parties qui vendent ou se rétrocèdent des terrains. On parle essentiellement cette semaine sur nos relations avec notre prochain, sur nos relations au sein du corps de Christ, sur nos relations dans le peuple de Dieu. Alors j'espère que vous serez bénis, que vous serez confrontés, que vous serez ébranlés et que le Seigneur pourra, vous et moi, nous transformer tous et chacun avec les enseignements de cette semaine. Alors prions, après quoi on va saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis nos dernières salutations. Alors merci Seigneur pour ce que tu fais et merci pour le temps que tu prends pour nous façonner, pour forger de chacun d'entre nous des hommes et des femmes qui sont à la hauteur de ton appel et de tes désirs pour ta famille, pour tes fils et pour tes filles. Je prie pour moi-même, mais je prie aussi, Seigneur, qu'il en soit de même pour mes frères et mes sœurs et nos amis qui nous écouteront cette semaine à travers cet enseignement. Seigneur, nous avons à changer. Je prie que chacun d'entre nous puissions passer par ces étapes charnières, ces moments clés dans notre existence où nous rentrons dans de nouvelles dimensions avec toi, des dimensions d'abandon devant toi, des dimensions d'appartenance plus profonde et plus intime encore avec Christ, des dimensions d'engagement encore plus intenses à l'égard de ton œuvre, de ton, de l'avancement de ton royaume. Et aussi, Seigneur, des dimensions où nous apprenons à pardonner, nous apprenons à laisser tomber nos griefs et où nous apprenons à faire passer l'autre avant nous. Qui que soit l'autre, quel que soit le coût imposé dans cet abandon, dans ce fait de faire passer l'autre devant nous. Je prie, Seigneur, que tu trouves une oreille qui t'est attentive et que tu trouves en moi, Seigneur, un cœur qui est disposé pour que tu fasses à travers moi et par moi ce que tu désires et comme tu le désires. Alors aujourd'hui, bénis ma sœur, bénis mon frère, arrose cette parole de ton onction et pousse, Seigneur, cet enseignement dans des domaines très précis, dans des cas de figure très précis dans la vie, de mes bien-aimés, afin, Seigneur, qu'ils ne puissent pas passer une autre journée sans avoir été transformés et changés par la parole qui vient d'être partagée. Et continue encore à nous bénir tout au long de cette semaine. Bénis déjà le cours biblique avec le pasteur André ce soir, concernant l'Église primitive, le livre des Actes. Inspire ton serviteur et permets, Seigneur, à chacun qui assistera, d'avoir la disposition pour recevoir et pour embrasser ta parole et ta volonté. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je vous rappelle donc ce rendez-vous qu'on vient, pour lequel on vient de prier avec le pasteur André ce soir à 19h, comme d'habitude, heure de Montréal. Je remonte un peu pour saluer quelques personnes qui se sont jointes à moi. Je remonte, je remonte, je remonte. On y est presque. Voilà. Alors, la dernière personne que j'avais saluée, c'était la sœur Suze. Donc, je la resalue. Et par la suite, donc, on a. Et puis, tous ceux que je ne mentionnerai pas, c'est que vous avez soit été mentionnés avant ou que votre nom n'apparaît pas et je m'en excuse d'avance. Alors, bonjour à la sœur Charlotte. Bonjour, Daniel. Bonjour à Sirleaf ou Sirleaf Julie. Bonjour, Jimmy encore. Bonjour Natacha, bonjour Indirène et bonjour la petite famille. Bonjour à Marie-Huguette, bonjour à Yaoi, bonjour à Denise et à Gérard, bonjour à Julie, une autre Julie, cette fois-ci c'est Julie Giraldo. Bonjour à Chantal et à Léo. Bonjour à Tina. Et à Christophe et à la petite famille. Bonjour à Alain et à Winnie et à la petite famille aussi. Et qui y a d'autres? Bonjour à Diane. Bonjour à Myriam et à Donald. Et je crois qu'on est arrivé à la toute fin. Je l'ai salué au tout début. Donc, que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous et on se retrouve donc ce soir 19h avec le pasteur André, sinon demain matin pour la suite de nos bénédictions matinales. Bonne journée, bon début de semaine, bonne journée dans la présence de Dieu et laissez le Seigneur travailler vos vies. Que Dieu vous bénisse, au revoir tout le monde.